Souvent, il y a des enseignes qui se lancent en franchise parce qu'elles maîtrisent un métier, que ça fonctionne bien, et qui se disent, tiens, on va dupliquer en ouvrant notre concept maintenant qu'on avait en succursale à des partenaires franchisés. Et malheureusement, souvent, soit ça fonctionne pas, soit c'est très difficile parce que franchiser quelque chose, c'est très différent que de le faire en propre.
Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur habituel que nous avons dans notre vie quotidienne, c'est le pressing. Mais avec Nicolas de Brunac, nous allons parler du pressing écologique. C'est le fondateur de l'enseigne Sequoia Pressing et depuis 2008, il dirige cette enseigne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Claire.
Bienvenue sur les voies de la franchise.
Je vous remercie de m'inviter.
Alors racontez-nous cette histoire. Comment en 2008, tout d'un coup, on se dit, tiens, et si je montais un réseau de franchise, parce que c'est en franchise effectivement, mais un réseau de pressing?
Ah, c'est une histoire amusante, comme beaucoup d'histoires de jeunes entreprises, même si on commence à être pas si jeune que ça. Je travaillais à l'époque, moi, chez Alain Felou, depuis 3 ans. Et j'avais envie de monter une entreprise. Et chez Alain Felou, j'ai pu découvrir la franchise. À l'époque, après McDo, c'était le deuxième franchiseur d'Europe. Il y avait plus de 1000 boutiques déjà, Alain Felou, un peu partout en Europe. Et ce concept de la franchise, c'est de s'associer avec des hommes et des femmes qui vont, pour les accompagner dans leur création d'entreprise et qui vont eux-mêmes permettre l'accroissement de la marque, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant. Alors l'objectif, ça a été de trouver un secteur dans lequel se lancer. J'ai commencé de façon habituelle. J'étais pas bien vieux à l'époque, j'avais 24 ans, par regarder tous les secteurs sur lesquels j'avais un intérêt particulier. Alors j'ai regardé l'alimentaire, j'ai regardé le pinard. J'aime bien ces métiers-là. Il y avait déjà 42 chaînes de restauration, pour pas dire 150, et pareil pour les cavistes. J'ai regardé ensuite le sport, c'était très compliqué, des barrières à l'entrée très difficiles, il y avait déjà beaucoup d'acteurs. Et puis comme ça, au fur et à mesure des semaines, je suis passé des métiers sur lesquels j'avais le plus d'accroche naturelle vers ceux sur lesquels j'en avais le moins. Et c'est souvent une bonne façon de se lancer, c'est pas forcément vouloir faire quelque chose qu'on aime à tout prix, sur lesquels il y a beaucoup de personnes qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà tenté des choses, parfois avec succès. Et je suis allé sur un secteur qui n'intéressait pas grand monde à l'époque, qui était le secteur du pressing, qui était un secteur vieillissant, sur lequel il n'y avait pas de nouveaux acteurs, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait une technologie qui était utilisée à l'époque, qui commençait à être pointée des doigts par les pouvoirs publics, qui d'ailleurs sera interdit à la fin de cette année, en décembre 2021. Et je me suis dit que sur ce métier-là, c'était vraiment un métier de service, d'artisanat, qui était plus à la mode, et on sentait bien que ça allait revenir. C'était le début de la fast fashion, donc c'était quand même très risqué en 2008. Arrivaient sur le marché toutes les chaînes internationales de vêtements pas chers et quasiment jetables, tellement ils étaient pas chers. Donc on nous a un peu pris pour des fous quand on s'est lancé là-dedans, mais on sentait bien que le côté éco-responsable des consommateurs allait revenir un jour ou l'autre et qu'il fallait acheter moins de vêtements et mieux les entretenir, d'où l'importance d'avoir un réseau de pressing national qui soit armé pour pouvoir faire face justement aux nouvelles matières, aux nouveaux textiles et aux changements d'habitude des consommateurs.
Donc une vision avant-gardiste du fait que la consommation allait changer, que les habitudes des gens allaient changer dans leur manière d'acheter du vêtement, et donc le rôle du pressing allait revenir sur le devant de la scène, mais pas uniquement dans son rôle de pressing, mais aussi par rapport à son approche écologique.
Ça, c'était très important pour nous, en tout cas à titre personnel. On a une vocation vraiment dans l'entreprise d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur la planète et les générations futures. Et ça commençait un petit peu en 2008. On parlait un petit peu de green business, mais c'était tout à fait balbutiant. Tout le monde pensait que ça allait être une petite mode, qu'elle allait durer 1 an ou 2, qu'elle allait s'arrêter. Mais nous, on s'est dit, c'est pas grave si la mode change. Nous, on a des valeurs, on va essayer de s'y tenir. Et de toute façon, si la mode change, c'est pas l'aspect principal de notre enseigne. L'aspect principal, c'est de faire une très grosse qualité de service, d'avoir une expertise sur les vêtements, sur les tâches, sur leur passage des choses fragiles et délicates. Donc le côté éco-responsable qu'on a mis dans notre ADN n'était pas spécifiquement une... C'était pas du tout dans notre cas, nous, du, ce qu'on appelle aujourd'hui du greenwashing, cette case de vie dans le monde du pressing. C'était vraiment une volonté personnelle. Et on s'est dit que de toute façon, ça ne pouvait pas faire de mal. Donc les clients, dès le début, ne venaient pas chez nous parce qu'on était spécifiquement éco-responsable. Ils venaient chez nous. Alors, il y en a qui ont découvert le service en se disant « Tiens, je vais essayer ». Mais nos clients viennent chez nous pour la qualité de prestation, pour les délais qui sont rapides, pour les prix qui sont raisonnables. Et en plus, tant mieux si on a le moins d'impact possible. Mais ils ne viennent pas chez nous parce qu'on est écolo. Parce que si on n'était qu'écolo et qu'on ne faisait pas partir les tâches et que c'était mal repassé et que c'était très cher, on n'aurait pas un client de toute façon.
Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est... L'écologie doit s'accompagner du service et de la qualité, ça c'est sûr.
Voilà, ça doit être un petit plus et pas uniquement le... ceux qui montent leur entreprise dans l'unique objectif que de faire exactement la même chose que font les autres, mais uniquement faire en sorte que ça soit green. S'il n'y a pas de valeur ajoutée pour le consommateur, ça ne sert à rien.
Et donc, vous avez tout de suite décidé de développer ce réseau sous la forme de franchise. C'était ce que vous aviez découvert chez Apelou.
Ouais, ça, c'était vraiment l'objectif. C'est-à-dire qu'on a construit, dès le début, notre première boutique et notre deuxième et notre troisième boutique dans l'objectif de pouvoir franchiser. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé un concept complet de A à Z. La franchise, c'est très compliqué. Souvent, il y a des enseignes qui se lancent en franchise parce qu'elles maîtrisent un métier, ça fonctionne bien, et qui se disent « Tiens, on va dupliquer en ouvrant notre concept maintenant qu'on avait en succursale à des partenaires franchisés. » Et malheureusement, souvent, soit ça fonctionne pas, soit c'est très difficile parce que franchiser quelque chose, c'est très différent que de le faire en propre. Il faut vraiment choisir ses partenaires franchisés. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut les accompagner main dans la main sur les premières semaines, les premiers mois d'activité, puis ensuite tout au long de la vie de l'entreprise. Et ce n'est pas du tout la même relation, évidemment, qu'on a avec des partenaires franchisés qu'avec des collaborateurs. On ne peut pas leur dire la même chose, on ne peut pas être aussi directif, il faut prendre en compte leurs souhaits, leurs envies, leurs peurs, leurs craintes. Donc il faut vraiment, c'est une approche très longue avant de décider de franchiser quelque chose qui fonctionne bien. Et l'avantage qu'on avait, nous, c'est que je ne venais pas du tout du monde du pressing, et je venais celui de la franchise. Donc, j'ai pu voir dans un réseau aussi bien construit que celui d'Alain Flou, qu'est-ce qui fonctionnait bien en franchise, quelles sont les erreurs qui avaient été faites, qu'il ne fallait surtout pas reproduire pour que ça se passe bien. Et ça nous a permis, cette expertise de la franchise, d'éviter de faire des grosses erreurs que font malheureusement beaucoup d'entreprises qui maîtrisent bien un métier et qui se lancent comme ça parce qu'ils ont des demandes de franchise et qui disent « Tiens, allez, on va les accepter. » Il faut faire un gros travail préparatoire pour que ça se passe bien.
Oui, tout à fait, oui. Il y a ce fameux guide aussi, et puis toute cette structuration du business model et de l'activité. Alors, votre premier franchisé, comment vous l'aviez trouvé? Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans votre réseau, ou est-ce que c'était quelqu'un qui s'est présenté à vous en disant « Nicolas, je veux monter une franchise, Sequoia ».
Alors, notre premier partenaire franchisé, c'est la première demande de franchise officielle qu'on ait eue sur notre site internet. On a monté au bout d'un an à peu près. On avait monté une première boutique, une deuxième. Si on peut avoir deux boutiques pour avoir le droit de franchiser, c'est le droit européen de la franchise. Et dès aussitôt qu'on ait ouvert notre deuxième boutique, on a créé sur notre site internet un espace candidat à la franchise qui existe toujours aujourd'hui, où nos candidats à la franchise peuvent venir enregistrer une demande de franchise ou demander des informations. Et il se trouve que la première demande de franchise qu'on ait eue, eh ben, elle s'est concrétisée, ce qui est assez rare.
Oui.
On remarque aujourd'hui, parce qu'on est très sélectif, qu'on accepte à peu près 5% des demandes de franchise qu'on a. Et il faut être sélectif, pas forcément parce que les candidats à la franchise sont mauvais, hein, mais parce qu'on estime parfois qu'ils ne sont pas en adéquation soit avec nos valeurs, soit qu'on pense qu'il y a un risque que ça se passe mal, soit ils veulent absolument faire dans des emplacements qui ne nous paraissent pas du tout propices. Enfin, toutes les hypothèses sont bonnes pour refuser un candidat à la franchise. Il se trouve que le premier, eh ben, ça a matché, il a ouvert une boutique, puis deux, puis trois, puis quatre, maintenant il est sur Lyon. Et je le remercie de nous avoir fait confiance depuis si longtemps. Ça fait 10 ans maintenant qu'il est partenaire franchisé.
Oui.
Le premier, non seulement ça s'est concrétisé, mais en plus, il a grossi.
Ah bah c'est super. C'est bien. Et donc, maintenant, vous avez 50 franchisés. Vous avez ouvert la 50e en 2020, peut-être déjà en 2021, d'autres projets.
Oui, alors on a effectivement 50 partenaires franchisés. Et on a en plus un réseau de 13 boutiques en propre. Donc on a 63 boutiques qui sont principalement en France. On en a une sur l'île de la Réunion, dans les Dom-Tom, et on en a 4 à Moscou et 2 à Casablanca. Un petit développement international qui est uniquement le hasard des rencontres. On ne passe pas de temps ni d'investissement dans le développement international.
Oui.
Un franchisé de qualité qui veut faire dans une ville qui nous paraît intéressante, et bien évidemment, on donne suite. Et donc aujourd'hui, oui, 63 points de vente. Et on a eu la chance de pouvoir, malgré le concept, contexte très difficile en 2020, ouvrir quand même une dizaine de boutiques, 8 en franchise et 2 en propre. On espère en ouvrir une quinzaine cette année, en 2021. On a déjà 3 qui sont signées. Une à Lyon, une au Touquet et une à Montpellier. Donc, on essaye de continuer de la façon la plus qualitative possible à accompagner des hommes et des femmes dans l'ouverture de leur point de vente.
Ceux qui aujourd'hui viennent vers vous sont principalement attirés par ce concept éco-responsable ou par le fait que c'est une franchise dynamique qui se développe et que c'est un secteur qui finalement se maintient. Qu'est-ce qui fait ce choix des franchisés ?
Un peu les deux. Alors, il y en a qui sont évidemment, et on ne peut pas leur jeter la pierre, très opportunistes, parce qu'ils voient que ça se fonctionne bien, ils se disent, tiens, je vais gagner des ronds, je vais les appeler. Alors, effectivement, ceux-là, en général, on donne pas suite, parce qu'il faut vraiment, c'est très important pour nous, qu'ils partagent vraiment nos valeurs. Donc, nous, on accepte avec plaisir des partenaires candidats qui ont la même vision que la nôtre, ça, c'est vraiment très, très important. Et qui sont attirés à la fois par le fait de créer une entreprise sur un secteur sur lequel les risques sont relativement faibles, parce que nous, il n'y a pas d'effet de mode, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment du service, et qui en plus ont à cœur de faire les choses bien dans le respect le plus possible de l'environnement.
La première fois qu'on avait échangé, David, on était en plein confinement, vous aviez tous vos pressings, en tout cas la plupart de vos pressings de fermés, et vous me disiez que ça va être difficile parce qu'effectivement la période où les gens apportent le plus de vêtements et d'objets à nettoyer, c'est pendant le printemps, et juste à ce moment-là, c'était fermé. Comment vous avez relevé ce défi de ces fermetures générales, de cette crise, et quels enseignements vous en avez tirés ?
Alors ça, c'est une excellente question. C'était une période très particulière, évidemment, pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises. On démarre l'année 2020, nous, sur les chapeaux de roue. On avait fait, en plus, une petite augmentation de capital fin 2019 pour accentuer encore la croissance du réseau. On signe beaucoup de franchises début 2020. On fait un mois de janvier, un mois de février absolument canon. Et là, fin février, début mars, on sent la panique arriver. On s'y prépare peut-être pas assez bien sur les 10 premiers jours de mars, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas vu le confinement qui a été quand même très brutal arriver du jour au lendemain. Et pour nous, ça a été particulièrement difficile parce que notre métier était listé dans la liste des métiers prioritaires. Donc, ouais. Nous avons un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que nous avions le droit de rester ouverts, mais du coup, nous ne bénéficions d'aucune aide particulière. Il se trouve que l'immense majorité de nos partenaires franchisés ont fait le choix, devant la panique généralisée, en tout cas les premiers jours, de maintenir fermées leurs boutiques, le temps qu'on les voit un petit peu plus clair, et on les a encouragés surtout à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et surtout, il fallait pouvoir s'équiper de masques, de plexiglas, de gel hydroalcoolique. Et évidemment, comme chacun sait, il n'y a fait de stock nulle part. Alors nous, heureusement, on avait réussi à la semaine d'avant, on a constitué un petit stock de masques et de gel, ce qui nous a permis à nous de maintenir dès le premier jour du confinement nos pressings ouverts, nous avec une seule personne, avec des horaires restreints, etc. Et au fur et à mesure des semaines, dès qu'on arrivait à trouver du matériel de gestes barrières pour nos partenaires franchisés, on a réouvert les boutiques les unes après les autres. Et à part celles qui étaient dans des centres commerciaux qui étaient fermés pour le coup, mais à partir du 15-20 avril, c'est-à-dire au milieu du premier confinement, l'immense majorité de nos boutiques étaient déjà réouvertes. Donc on s'est organisé en cellule de crise, on a pesé les pour et les contre, on a harcelé le ministère et tous les organismes possibles et imaginables pour savoir ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait rien du tout. Donc on a privilégié évidemment le risque zéro plutôt que le business à tout prix. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé, parce que les clients, assez rapidement, ont repris le chemin de nos boutiques, et on a réussi à éviter, avec des réouvertures le plus rapidement possible, un massacre évidemment économique qu'ont connu beaucoup de secteurs, mais comme nous, on n'avait pas d'aide, on
Oui.
avait intérêt à pas trop faire l'autruche et à avancer à fond dès le premier jour, quoi.
Est-ce que dans beaucoup de secteurs, les personnes que je reçois sur les voies de la franchise et ceux que je rencontre au quotidien disent cette crise a accéléré des processus, a accéléré des habitudes, enfin, des modes de fonctionnement, des modes de consommation. On perçoit un changement de mode d'habillement chez les gens et on imagine que ça a peut-être une influence aussi sur le pressing. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, l'influence de la crise sur notre métier de base, c'est-à-dire celui de nettoyer énormément de costumes et de tailleurs, évidemment, et de robes de soirée, de robes de mariage, etc., a eu un impact très fort, hein, parce que télétravail et arrêt des festivités, les deux combinés, ont fait qu'on a perdu tout un paquet de vêtements qu'on avait de façon habituelle. Donc, il a fallu s'adapter. Et du coup, on a profité de cette période pour lancer un paquet d'innovations, de nouveaux services pour nos clients. Donc, on a lancé le service de nettoyage des baskets et des chaussures qu'on ne faisait pas avant. On a lancé le service de couture retouche dans toutes nos boutiques qu'on ne faisait pas forcément avant. On a lancé un service de teinture que les pressings ne faisaient plus, puisqu'on dit pressing teinturier, mais il n'y a quasiment pas un pressing en France qui fait des teintures. Donc, on a trouvé un fabricant de teintures français, Made in France, qui on a fait un partenariat et on a attaqué les teintures des vêtements dans nos boutiques dès le mois de juillet, après 4 ou 5 mois de tests pour qu'on maîtrise bien le processus. Donc, on a mis en place un service qu'on va bientôt lancer de prestations à domicile, de nettoyage d'ameublement à domicile. Donc, on a profité de cette période qui était calme au niveau chiffre d'affaires boutique sur notre métier traditionnel pour justement accélérer les choses et avoir encore plus de cordes à notre arc pour le jour où l'activité reprendra de façon normale.
D'accord. Et donc, ça a nécessité des nouvelles formations des franchisés, j'imagine, sur des nouveaux métiers, parce que la teinture ou même le nettoyage à domicile, c'est d'autres manières de faire encore.
C'est des manières de faire différentes qui ont un rapport toujours avec notre métier qui est vraiment de nettoyer et d'entretenir les choses qu'on porte ou qu'on a chez soi, hein, les canapés, les rideaux, les couettes, les choses comme ça, l'ameublement à domicile. Les chaussures et les baskets en faisaient naturellement partie parce que finalement on avait une expertise pour nettoyer les cuirs et les daims déjà, donc pourquoi pas faire des chaussures cuir d'un ou en simili cuir pour tout ce qui est sneakers. Donc on avait déjà une expertise quand même sur une partie de la chose, mais c'est des nouveaux process, c'est des nouveaux produits, c'est une nouvelle façon de faire, de s'organiser aussi, parce que sur une chaussure, il y a une chose tout bête, mais sur les vêtements on met un ticket pour nos clients qu'on accroche, mais sur les chaussures, on ne peut pas accrocher de tickets. Donc, il a fallu s'organiser pour chacun de ces nouveaux métiers pour faire en sorte que ça se passe bien. Pareil, sur les vêtements qu'on teint, les tickets qu'on met habituellement, super, mais quand on les met dans une machine où il y a de la teinture, bah, le ticket se teint aussi, donc on ne voit plus le nom du client et le numéro de son ticket. Donc, il a fallu trouver des nouveaux tickets, des nouvelles encres, etc., qui ne prennent pas la teinture. Donc, tout ça, on a essayé d'être le plus rapide possible pour faire en sorte de pouvoir apporter un service qui soit très bon. Et ensuite, comme font toutes les franchises sérieuses, c'est-à-dire qu'on teste chez nous. Et dès qu'on maîtrise quelque chose de très bien, on organise la communication et on forme nos partenaires franchisés, on leur propose à tous d'ajouter ces services. Alors on
D'accord.
a eu la chance, nous, c'est qu'on avait un petit peu anticipé là-dedans et on avait fait la démarche il y a 3 ans déjà maintenant d'être centre de formation agréé. Donc on est centre de formation agréé chez Sequoia Pressing, et ce qui nous permet à la fois de pouvoir facilement former nos partenaires franchisés tout en étant couvert à la fois par le niveau assurance, évidemment s'il y a un souci, et de pouvoir faire prendre en charge ça par les OPCO quand on fait des formations. Et ça a été un gros point positif de pouvoir être centre de formation agréé. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, plutôt que si à chaque fois on était obligé de former un centre de formation qui lui-même allait former des partenaires franchisés.
Tout à fait, oui.
Mais être centre de formation agréé, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps et ça met beaucoup d'années. Donc heureusement qu'on avait pu anticiper ça.
Donc, beaucoup d'innovation pendant cette période très particulière de cette crise. On perçoit que c'est effectivement le choix des franchises qui souhaitent profiter de cette période pour innover, pour continuer à se développer. On a pu le constater avec beaucoup d'autres exemples qui sont passés aussi sur les voies de la franchise. Beaucoup de dynamisme. Vous êtes vraiment porteurs de beaucoup de dynamisme tous. Je sais pas si c'est cette activité en franchise qui permet ce dynamisme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forte volonté de se dire, ben voilà, il faut que je trouve des solutions pour aussi mes franchisés.
Ça, c'est obligatoire. De toute façon, si une franchise n'est pas dynamique, elle est foutue. Une franchise, on est obligé d'apporter des innovations de façon perpétuelle, aussi bien pour nous que pour les partenaires franchisés, que pour les futurs franchisés. Une franchise, elle doit grossir pour bien se porter. Si elle grossit pas, c'est dommage. Et pour grossir, il faut faire venir des nouveaux talents, il faut faire venir des nouveaux candidats, et on fait pas venir des nouveaux candidats si on fait la même chose depuis 20 ans sans avoir bougé une ligne.
Et comment on peut s'entourer pour s'aider dans ces innovations? En fait, ça sort de votre tête. Ça, vous avez un des gens qui autour de vous étudient le marché, analysent. Comment on innove en fait? Comment on se dit, tiens, je vais aller dans ce sens, dans celui-là? On écoute les clients, j'imagine. On fait des études. Comment ça marche?
Alors, ça marche pour toutes les entreprises et pour toutes les franchises, qu'elles soient petites ou grosses. Parce qu'aussi bien une franchise énorme, comme le leader français, par exemple, qui fait plus de chiffre d'affaires sous franchise, qui est une petite enseigne de restauration rapide américaine, ils sont obligés d'innover tout le temps aussi, à travers des nouvelles recettes, des nouvelles politiques de communication, des nouveaux services, des bornes de click and collect, de tout ce qu'on peut imaginer en tout, et qu'on soit petit comme nous, parce que nous, on est une petite chaîne de franchise, on a 60 boutiques dans un métier, on n'a pas 3000 boutiques, donc il n'y a pas une équipe de 300 personnes au siège, il n'y a pas des développeurs, des informaticiens, des techniciens, des directeurs de communication, des chercheurs, et il n'y a pas forcément, évidemment, des équipes de centaines de personnes qui sont des think tanks à elles toutes seules qui vont réfléchir. Mais il n'y a pas ça aussi dans les très grosses enseignes, donc il faut être moteur, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui se passe évidemment à l'étranger, parce que parfois on peut avoir de bonnes idées de ce qui se passe à l'étranger, regarder aussi ce qui se passe évidemment chez les concurrents, parce que parfois il y a des concurrents qui peuvent avoir de bonnes idées. Alors nous, on est sur un métier où malheureusement il n'y a pas énormément d'innovation encore, parce qu'on est un métier vraiment traditionnel, qui ne s'est pas encore complètement restructuré. Il faut essayer de réfléchir à ce que vont être les besoins des consommateurs demain, et ce qu'on va être les envies des consommateurs demain, donc il faut leur poser des questions, il faut avoir un excellent flux de retour boutique, de retour d'information, donc il faut que toutes les équipes soient vraiment au taquet pour que dès qu'un client fasse une remarque, on puisse l'avoir. Il faut mettre en place des sondages, ce qu'on avait fait nous, on a un petit email qui part automatiquement à tous nos nouveaux clients pour leur demander ce qu'ils ont pensé du service et leur demander une petite remarque, ce qui leur a déplu, plus ce qu'ils auraient imaginé venir trouver chez nous. Et du coup, ce canal montant d'informations, et c'est aussi la force des réseaux de franchise, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul patron, parce que tous les partenaires franchisés sont patrons dans leur coin. Donc, il y en a un qui, de temps en temps, peut avoir une bonne idée, soit qu'il a eu lui-même, soit qu'il a été soufflé par un de ses clients, soit par un de ses proches. Donc, le fait d'avoir un réseau, ça permet d'avoir un maximum de réflexions entrantes pour pouvoir s'appuyer dessus. Et le tout, ensuite, c'est de ne pas faire d'erreurs. Alors, l'avantage qu'on a, on teste évidemment, comme tous les franchiseurs, sur nos boutiques à nous. Parfois, on teste des trucs, ça marche beaucoup, les clients s'en foutent. Parfois, il y a des trucs qu'on pensait être des idées géniales, c'est un échec complet. Bon, ben, c'est pas dramatique, parce que c'est pas forcément des investissements énormes. On avait pensé, par exemple, chez nous, on trouvait que c'était une super idée, on avait trouvé le bon partenaire, en plus, de draps pour faire ça. Faire de la location de draps pour les gens qui louent leur appartement sur Airbnb. Ah oui. L'idée super. Ils viennent le vendredi, ils ont réservé leur pack de draps, ils ont mis la taille des lits qu'ils avaient chez eux, on avait tout le stock en stock. Hop, on leur donne une paire de draps propres, parce qu'ils n'ont pas forcément envie que les locataires Airbnb dorment dans leurs draps à eux, on ne sait jamais trop ce qu'ils vont faire. Et le lundi matin, quand ils sont rentrés de week-end, ils jettent la paire de draps sales au pressing, et puis terminé, on n'en parle plus. Je crois que c'était une super idée.
Oui, c'était une bonne idée, oui.
On a fait de la communication, on a appelé toutes les plateformes de location, ils ont tous dit, ah ben ça c'est top comme idée. On n'a pas eu un client. Personne n'a souhaité faire ça. On a contacté plus de 1000 personnes qui louaient leur appartement sur une plateforme comme ça, à proximité de la boutique test, qui en plus était en plein marais dans Paris. Donc,
Airbnb, le quartier idéal.
Donc oui. C'est le quartier idéal. Ils ont tous dit, nous, on s'en fout complètement. Nous, on a notre paire de draps. Le bas de gamme qu'on met, on la lave, on ne veut pas payer 15 euros pour ça, donc échec complet. Bon, ça s'était fait, mais parfois il y a des idées qu'on pensait coller justement aux besoins et aux futurs besoins des clients et des consommateurs, parce que ça marche avec l'expo, qui ne rencontrent pas du tout leur public.
Ouais.
Quand on a lancé la teinture, personne n'y croyait, tout le monde disait, mais de toute façon, les vêtements, on va les jeter une fois que leur couleur est passée. On a lancé le service de teinture, ça fait un carton. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le tout, c'est d'essayer, de beaucoup essayer, d'essayer beaucoup de choses. Et puis, de temps en temps, il y a un truc qui marche. Et quand ça marche, on propose à tout le monde de le mettre en place partout.
Alors, vous avez eu une autre idée aussi, vous communiquez pas mal dessus, c'est de proposer aux marques de venir tester la durabilité de leurs vêtements chez vous.
Alors ça, on est très fiers de cette idée. On est très fiers de cette idée. Comment est-ce qu'on a eu cette idée? Ça fait des années, et ça s'accentue de façon absolument considérable ces derniers mois, que les clients qui viennent déposer chez nous des affaires en boutique nous disent « Mais c'est quoi les marques qu'il faut acheter? C'est quoi les marques de pulls? C'est quoi les marques de costumes? Parce que moi, j'en ai ras-le-bol d'acheter des vêtements, même quand on les paye cher, on les lave trois fois, ça se délite, la couleur s'en va, c'est limé sur les coins. » Vous qui avez l'habitude d'entretenir des vêtements, dites-nous les marques qu'il faut acheter, celles qui tiennent dans le temps.
Ah oui, vous devenez prescripteur.
On devient complètement prescripteur, ce n'est pas du tout notre métier. On n'a pas spécialement envie, nous, un petit peu artisans du service après-vente de la chaîne textile, de conseiller à nos clients ce qu'ils doivent acheter. Donc on s'est dit, ben si, en fait, on va les conseiller. On va les conseiller parce qu'on va appeler les marques et on va leur proposer de tester l'intégralité de leur collection et surtout de leur future collection pour qu'ils soient sûrs que ce qu'ils vendent, ça soit de la qualité. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui fait des tests de nettoyage très mis en commercialisation. C'est complètement délirant. Hein. Ne testent pas les vêtements qu'ils ont mis en vente ou qu'ils vendent. Il y en a certaines qui testent les matières ou qui ont un rapport sur les matières, parce que les fabricants de matières testent pour certains leur matière, mais ils testent leur matière sur un nettoyage, jamais sur 10, 20 ou 50 comme nous on propose.
Donc l'objectif... Oui, les voitures font les crash tests, mais pas les vêtements.
Exactement, les voitures font les crash tests, on sait exactement ce qui va se passer, combien de litres de diesel ou d'essence pour les voitures qui sont encore thermiques, elles vont consommer aux 100 km. Ils savent tout, ils essayent tout, ils testent tout et ils donnent des informations aux consommateurs. Les marques de vêtements, il ne se passe rien. De temps en temps, il y a une étiquette d'entretien. Parfois, il y a tous les sigles qui sont barrés. Le client achète un vêtement, oui. Ça ne nettoie pas. Ça a l'air d'être exceptionnel, mais non, on voit ça tous les jours dans nos boutiques. Il y a des vêtements qui arrivent, une étiquette où tous les sigles sont barrés. Donc, les marques prennent même plus de risques. Elles font plus ou elles ne font pas. Elles n'ont jamais fait, en tout cas, pas ces 30 dernières années, de vérifier à ce qu'ils vendent que ça soit vraiment de la qualité, quel que soit le positionnement de la marque, hein, de l'ultra-luxe jusqu'au très bas de gamme. On s'est dit que ce n'est pas possible parce que le consommateur, il veut acheter quelque chose dont il soit certain que ça dure dans le temps. Donc en fait, on propose aux marques de vêtements de soit tester leur collection, et si jamais par miracle, elles passent le label 50 Wash Test Success, elles peuvent bénéficier du label et donc communiquer dessus et rassurer leurs futurs consommateurs sur la qualité de leurs vêtements. Soit on intervient avec elles en amont, c'est-à-dire qu'on va tester 50 fois les matières, on va tester les couleurs, on va tester les mélanges de matières. Parce que si on met un peu de coton avec un peu de soie, il faut que ça passe dans la même machine. Parce que si on est obligé de découdre la robe pour la faire passer dans deux machines différentes pour la recoudre après le lavage,
c'est gênant.
Autant vous dire que la facture pour le client, elle va être salée, donc il ne va pas forcément être ravi. Donc, ouais. Évidemment, le vêtement fasse ça. Ça faisait quelques années qu'on faisait ça, et on fait ça pour une grande marque canadienne de doudoune, hein, pour ne pas la citer.
Oui.
Et qui nous confie chez nous, chez Sequoia en France, chaque année, le test de toutes les doudounes qui vont lancer dans 12 mois, parce qu'eux, ils ont une année d'avance et de marge sur les cycles de collection. Ça leur permet d'avoir un service consommateur qui soit top et de ne plus avoir de problème sur le suivi de la qualité. Et on s'est dit, ça a cartonné pour eux. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour tous ceux qui souhaitent changer l'industrie du textile pour transformer une industrie qui est tournée vers le fast fashion aujourd'hui, pour la transformer vers une industrie de durabilité qui aura à la fois moins d'impact sur la planète, et surtout qui serait beaucoup plus profitable sur les marques, qu'elles puissent organiser ensuite derrière le service après-vente, et la seconde main.
Oui.
Parce que s'ils vendent un vêtement qui se nettoie 50 fois, qu'une personne hyper fashion l'a porté 3 fois cet été, et puis qu'elle ne veut plus la remettre l'année prochaine, autant que la marque puisse la racheter contre des bons d'achat et la revendre ensuite à une autre cliente qui sera ravie de bénéficier d'un vêtement d'occasion. Et elle sera contente parce qu'elle sait qu'il durera dans le temps, parce que c'est de la qualité, puisqu'on l'a testé, puisqu'il a son label de durabilité.
Et, ça, on et donc, c'est un label que vous avez obtenu auprès d'organismes reconnus publiquement, ou c'est un label que vous avez développé, vous, grâce aux différents tests?
Et c'est un label qu'on a créé, nous. C'est un label qu'on a créé, nous. Donc, on est parti d'une feuille blanche. On a écrit un cahier des charges, une dizaine de pages, avec l'intégralité de processus, de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on teste, donc quels sont les résultats qu'on attend. Et ensuite, on donne des rapports de fin de prestation qui sont très complets, qui sont très détaillés avec des photos, des mesures, des détériorations de couleurs, des maintiens de couleurs, etc. De façon à ce que la marque ait un rapport absolument complet. Et pour ceux qui ratent le label, c'est-à-dire là où les vêtements ne sont pas suffisamment costauds pour tenir 50 fois, en fait, on les accompagne sur leur collection suivante pour qu'ils puissent, l'année suivante, obtenir le label sur l'ensemble de leur gamme. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé de A à Z.
Super. Et donc, on peut voir dans vos pressings les marques avec qui vous avez signé ce label. C'est public ou...
Vous allez voir sur notre site internet, nous, les marques avec lesquelles on a signé, et vous ne verrez que les marques qui ont réussi de façon brillante le test, parce que celles avec qui on a signé et qui n'ont pas passé les tests, puisque les vêtements ne sont pas dessus, évidemment, on ne communique pas, parce qu'ils rendent une démarche de qualité, donc on les accompagne pour qu'ils puissent bénéficier du test lors de la prochaine collection. Bon, c'est un label qu'on a lancé au mois d'octobre, hein, et aujourd'hui, il y a une seule marque qui a obtenu sur l'ensemble de sa gamme le label, qui est une jeune marque d'ailleurs, avec qui on travaille depuis longtemps pour faire en sorte qu'ils fassent de la très grande qualité. Et en plus, c'est une marque qui est 100% recyclée. Alors, ça nous tient bien. C'est fait à la base de bouteilles de plastique utilisées. En plus, c'est nouveau. D'accord. Et c'est du Made in France. Donc, ça serait encore mieux pour nous. On était ravis de les accompagner dans leur démarche qualité. Elle, on peut la citer. Elle s'appelle IEM Experience. Et qui font des doudounes de grande qualité. Et ils ont passé les tests à la main. C'est-à-dire qu'au bout de 50 nettoyages, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Donc, les clients sont rassurés. Ils sont en train de communiquer dessus, justement. Ils sont ravis qu'ils aient réussi à passer tous les tests avec succès. Et ça, on est absolument certain que pour eux, ça sera un gage de succès énorme dans la commercialisation de leur doudoune.
Oui, ça, sûrement, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est tellement rageant d'avoir acheté un vêtement et au premier lavage de se retrouver avec le vêtement complètement déformé qui n'a plus d'allure. C'est vrai que si on pouvait être certifié avec la certitude que effectivement après le premier lavage, il reste un minimum comme il est que le premier jour, ça serait quand même une bonne chose, oui.
Oui, alors évidemment, ça ne règle pas le souci de si quelqu'un passe à lui un pull en laine ou en cachemire dans son lave-linge à 60.
Oui.
Évidemment, il n'y aura plus de pull.
Ouais, ça, c'est sûr.
Je lui assure que si jamais il vient chez nous, que si jamais il respecte correctement l'étiquette d'entretien, effectivement, il pourra garder son vêtement pendant plusieurs années. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on avait commencé à parler de ça aux marques il y a quelques années, sans penser à des labels, mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on teste les vêtements? Les marques, il y a 2-3 ans, nous disaient, on avait fait un petit sondage, mais nous, ça nous intéresse absolument pas. De toute façon, la mode, elle change tous les 6 mois, donc un vêtement, il va être porté 4 fois en moyenne. Donc, de faire des tests, c'est pas notre problème, c'est pas notre souci. Nous, on vend de la mode, on vend du rêve, on vend pas d'utilité. Et ces marques-là qui nous envoyaient paître il y a quelques années en disant que ça les intéressait absolument pas de savoir si vous êtes de la qualité ou pas, tout simplement, et ben aujourd'hui, elles se rendent compte que le consommateur, il veut de la qualité. Et
oui.
Donc aujourd'hui, elle nous rappelle. Nous, on est ravis parce que notre objectif à nous, c'est de faire bouger les choses. L'industrie du textile, c'est une industrie qui est très polluante. Donc si on fabrique des vêtements qui durent beaucoup moins, pas beaucoup plus longtemps, certes, on va en vendre moins. Mais comme il y a beaucoup de marques de vêtements qui, malheureusement, vont passer à la trappe, nous, on suppose que celles qui vont faire de la qualité à un prix raisonnable, sont celles qui vont non seulement survivre, mais qui sont promises à un bel avenir.
Tout à fait. Je crois qu'effectivement, là aussi, il y a un changement de mentalité par rapport à ces choix d'habillement. Et la jeune génération nous pousse, je trouve, quand même à avoir cette approche d'un regard plus préservé sur la nature par rapport aux vêtements. Même s'il y a encore une consommation assez forte, la fast fashion, je crois qu'on a quand même effectivement une volonté collective d'améliorer la qualité.
Ça, c'est certain, d'autant plus que le marché de la seconde main explose. On le voit avec le succès de quelques sites d'applications qui sont des cartons complètement dingues. Et évidemment que les clients vont préférer acheter d'occasion quelque chose dont ils sont sûrs que ça tient dans le temps, que quelque chose qui a déjà été lavé 5-6 fois. Et on se demande si au 7e, ça ne va pas disparaître.
Oui.
Donc on pense que pour les marques, ça va être très important de rentrer dans un process de qualité.
Très bien, ben, je crois que Sequoia participe largement à cette amélioration de la qualité du vêtement de par les valeurs que vous défendez, cette approche de l'éco-responsabilité, de ce nom aussi qui vient d'une plantation, c'est ça, de Sequoia.
Sequoia, le nom latin du Sequoia, c'est un arbre, hein, c'est le plus grand arbre du monde.
Oui.
En latin, c'est Sequoia semper virens, semper virens qui signifie toujours vert. Et il se trouve que ce qui nous a beaucoup plu dans ce nom-là, c'est deux choses. C'est que déjà, le mot vir, qui donne la couleur verte en latin, c'est aussi le mot qui désigne l'humanité en latin, vir. connaît bien sous le principe de la virilité, mais la virilité, en fait, c'est le genre masculin, c'est l'homme en latin. Et c'était le même mot. Il y a 2000 ans, nos amis romains avaient déjà mis l'humanité au cœur de la nature, donc ça, c'est très amusant. Comme quoi, on a un petit peu de retard aujourd'hui. Et dans ces colliers, il y a sec comme nettoyage à sec, mais ça, personne ne le voit, mais ça, c'est pas grave. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une seule forêt de séquoia Semper Virens en France. C'est mon grand-père qui l'a planté après la guerre, chez lui, en Bretagne. Aujourd'hui, ils font 60 mètres de haut, c'est très impressionnant. Et donc, c'est un petit peu pour lui rendre hommage aussi. Et ce nom-là marche bien, parce que c'est un nom qui est...
Ah oui.
Correspond bien à ce qu'on veut. C'est faire bouger les choses pour rendre le consommateur heureux et la planète saine. Hein, qui eût pu croire il y a 10 ans qu'un petit pressing allait faire changer les énormes mastodontes de l'industrie textile dans la façon de voir les choses. Pas grand monde, nous non plus, on ne pensait pas trop il y a 3-4 ans. Et puis finalement, on se rend compte qu'avec un peu de volonté, on peut arriver à faire bouger les choses.
Ben oui, les choses vont finir par effectivement continuer à bouger et ça, l'accélération, je crois, du mouvement est perceptible et tant mieux. Voilà. Ben merci Nicolas pour cet échange. Une dernière question que je pose à tous ceux qui passent sur les voies de la franchise, c'est une question sur le doute. Est-ce que vous avez un rituel, une manière de gérer votre doute ?
Le doute, c'est très important. Celui qui n'a pas de doute ne peut pas réussir. Parce que quand on est sûr de tout, on fait forcément des erreurs qui sont fatales. Parce qu'on se plante, tout le monde se plante, même les génies absolus se plantent. Nous, on sait qu'on n'est pas des génies, donc à partir de ce moment-là, on n'a pas le choix. Il faut douter de tout, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir beaucoup, tester beaucoup, y aller pas trop fort, bien maîtriser avant d'y aller. Donc on doute évidemment tout le temps. Et heureusement, et on doute, est-ce que si on lance ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on lance ça, est-ce que ça va marcher? On va ouvrir ici, est-ce que ça va fonctionner? La meilleure façon de mieux dormir, c'est de pas faire de folie, c'est de pas faire n'importe quoi, c'est de construire pierre par pierre, de s'entourer des meilleurs, de bien tester avant de se lancer, de bien choisir ses partenaires franchisés, de bien choisir ses emplacements, de bien négocier ses loyers, de bien former tout le monde. Et ça permet de réduire le doute de façon la plus importante possible. Mais heureusement, on doute tous les jours avec toutes les équipes. On doute, on dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on va faire ci? Il faut essayer, il faut tester. Une pincette par-ci, une pincette par-là. Changer un petit peu les choses. Et puis parfois, ça marche. Parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on lance des trucs, c'est un échec complet. Mais c'est pas grave, hein. Il faut se construire sur des échecs pour pouvoir anticiper l'avenir avec bienveillance et efficacité.
J'ai l'impression que ça marche plus souvent que ça ne rate. Alors, vu le succès de Sequoia Pressing, qui en 12 ans arrive maintenant à 63 pressings, donc je crois qu'effectivement le succès est là et le nombre de candidats aussi pour 2021 montre que vous savez séduire aussi des futurs candidats. Donc bravo et puis merci encore pour cet échange et à bientôt.
Merci Claire, je vous remercie beaucoup en tout cas.
Au revoir Nicolas.
Bonne journée, au revoir.
Vous auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.